Bonjour Mathéo, vous nous avez rejoint sur ce plateau, bonjour à vous.
Bonjour.
Alors vous êtes auteur, illustrateur, là on va dire que c'est votre édition au festival, vous avez réalisé l'affiche de cette 36e édition du festival. Vous avez une exposition installée durant tout le week-end de votre dernier album sorti chez Futuropolis, La Vénus à son miroir, une belle mise en lumière de votre travail.
Oui, merci. Je suis vraiment très content d'avoir cette expo et d'avoir pu faire aussi l'affiche pour le festival. Et voilà, c'est
alors, vous avez démarré par des études d'architecture. Vous venez du sud de l'Italie, je crois. Alors là-bas, les maisons sont plutôt blanchies. Alors, il y a déjà ces villages escarpés. On a l'impression que cette affiche, elle partage, elle vient juxtaposer des choses qui vous sont intimes en Italie. On pourrait se dire qu'il y a le sud de l'Italie et le parc des Cinque Terre dans cette affiche.
Bah, finalement, cette affiche est vraiment inspirée par la Ligurie, la région des Cinque Terre qui se trouve en Ligurie. Mais c'est vrai qu'à mon avis, dans l'image, il y a aussi des choses qui rappellent d'autres parties de l'Italie. En fait, moi, je suis originaire d'une partie du sud d'Italie, le Salento, que j'avais aussi proposé dans une autre proposition, parce qu'il y avait quatre propositions au début de cette affiche. Mais c'est vrai que ce qui a été choisi, en fait, a comme une espèce de qualité, d'universalité, et qui, je pense, que peut représenter un peu l'Italie en général, parce qu'on va penser, oui, aux Cinque Terre, mais aussi à la Costiera Amalfitana et d'autres endroits d'Italie aussi. En plus, il y a le ciel bleu et la mer qui joue un rôle, et un arbre qui se trouve en haut à droite, qui devrait être un pain et qui est très commun en Italie, un peu partout. Et voilà, donc. Et j'espère aussi que vous sentez un peu l'odeur de ce qui est en train d'être préparé, cuisiné dans les maisons qu'on voit dans l'affiche.
Il y aura une recette de risotto pour votre information.
Voilà.
Oui, parce que ça, si on a bien compris, il s'agissait effectivement d'une spécialité du nord de l'Italie. Oui. Alors voilà, on essaiera de naviguer aussi avec Laura Zavant tout à l'heure sur ces régions de l'Italie. Alors, ces études d'architecture amènent ensuite à un travail de décorateur, notamment en trompe-l'œil, donc oui. Déjà un travail autour du décor, de la reconstitution aussi.
Oui, en fait, c'est une espèce de ligne rouge qui suit tout mon travail. Parce que, oui, les études d'architecture, et puis la décoration, et puis la reconstitution historique. Sur la première partie de mon travail en tant qu'illustrateur, c'est une passion, en fait, pour l'histoire et une espèce d'obsession pour le passé. Et donc, l'idée d'avoir une espèce de machine pour remonter le temps personnel...
bien au-delà des choses qui vous ont été transmises, des souvenirs qui vous ont été transmis par les membres de votre famille que vous avez croisés. Là, on va y revenir tout à l'heure. On remonte dans les siècles largement. Alors, j'entendais encore hier dans un podcast par nos collègues de Actualité que vous avez découvert et vous avez aimé la bande dessinée grâce à des personnages, notamment le personnage de Mickey et le magazine Topolino, qui a été le premier magazine italien à investir ces personnages de Disney dans une publication régulière. Comment on se retrouve avec cette première bande dessinée entre les mains et comment on se retrouve happé par ces histoires en case ?
Ça a été un cadeau qui m'a été fait quand je vraiment savais même pas encore lire, parce que c'était avant que j'allais à l'école, hein, un cadeau un peu bizarre. Mais en fait, c'était un grand livre très connu en Italie à l'époque qui s'appelle Io Topolino. Ça s'appelait donc, c'était un recueil d'histoires de Floyd Gottfredson, donc pas des histoires de Topolino italien, mais des histoires américaines. Et ça m'a frappé. Après, je lisais ce livre sans savoir qu'est-ce que je lisais finalement. Je regardais les images, les couleurs, l'action des personnages, tout ça. Après, je me suis passionné bien sûr à la BD italienne de Topolino, parce qu'il y a une grande tradition d'auteurs qu'on évoquait tout à l'heure. Donc ça a été la lecture de mon enfance. Et à côté, je dessinais, mais je dessinais pas de bandes dessinées. Je dessinais comme tous les enfants le dessinent, donc des chevaux, des cow-boys, des choses comme ça.
Alors, ce travail autour de la reconstitution historique, ça c'est une chose de recherche. Il y a de la recherche iconographique et de la recherche aussi dans toute la matière qui est présente. On va écouter un petit extrait de l'interview de Sara Del Giudice, qui est une autrice installée actuellement à Angoulême, une autrice italienne actuellement installée à Angoulême, qui a réalisé son premier album en tant que, comme vous, pour Vénus au miroir, en tant qu'autrice, illustratrice. Et on va l'entendre parler de, justement, ce travail de recherche sur les détails et recherche sur cette alimentation des éléments du décor de sa bande dessinée.
Je pense qu'au début, j'ai eu pas mal, et j'en ai encore en vrai, de doutes concernant la légitimité que j'avais à parler d'une période historique que j'ai pas vécue personnellement. Mais après, je me suis dit que vu que les personnes qui l'ont vécu, bah, comme mes grands-parents ou comme les grands-parents de plein de personnes qui... Enfin, de plus en plus partent, parce que forcément, ils sont très âgés maintenant. Ça revenait aux nouvelles générations aussi de continuer d'en parler, et avec leur point de vue aussi, même si peut-être il n'est pas aussi juste que celui des personnes qui l'ont effectivement expérimenté. Mais étant donné que j'avais reçu un témoignage de personnes qui l'avaient vécu, je sentais que j'avais peut-être besoin d'en parler aussi. Et donc, ce qui se passe après, c'est qu'on essaye, justement, vu qu'on ne se sent pas légitime, de l'être le plus possible en fouillant dans des archives, par exemple, ou en lisant des livres, en voyant des documentaires, en relisant aussi, pourquoi pas. Moi, j'ai repris même des revues que j'avais quand j'étais enfant, qui s'appelaient Histoire Junior. Et là-dedans, il y avait plein de petits détails très subtils, la brosse à dents ou plein de trucs qui étaient vraiment... à la limite de, enfin, entre l'histoire et la vie quotidienne et plein de choses dont on ne parle pas normalement quand on parle de la grande histoire avec un H majuscule. Et après, on essaye de composer avec.
Alors là, effectivement, Sara nous parle de cette difficulté et en même temps de cette richesse qui s'offre à elle d'aller collecter des éléments à la fois dans ses lectures, à la fois dans ses souvenirs personnels. Elle va aussi nous évoquer les photos de ses grands-parents. Effectivement, elle parle aussi de légitimité. Alors comment on se plonge dans une période historique qu'on n'a pas connue et que les gens qu'on a côtoyés n'ont pas connue eux non plus ?
Bah oui, en effet, c'est un cas un peu différent parce que Sara, elle parle d'un passé relativement récent, alors que pour nous, en fait, c'est un passé qui est très loin, que personne de nous a jamais vu et a pu toucher de n'importe quelle façon. Mais là, à la base, il y a la passion pour la peinture et pour l'idée de pouvoir imaginer comment se passait la création d'un tableau, comme le tableau avec Jean-Luc Cornette, qui est le scénariste du livre. Et on a imaginé. Tous les deux, on est très très passionnés de peinture, d'histoire de la peinture et même d'histoire de la technique de la peinture. Donc forcément, oui, il faut inventer des choses. On n'est pas des historiennes, mais on essaie d'être le plus possible fidèle à ce qu'on connaît, aux informations qu'on peut avoir aujourd'hui sur ce type de choses. Et puis, finalement, oui, on essaie de pas trop tricher en sachant qu'il y a en tout cas un côté d'invention qui est nécessaire si on veut mettre en scène une situation, une histoire comme celle de Velázquez dans ce cas.
Pour revenir à cette histoire de Velázquez, peintre espagnol qui débarque dans son voyage en Italie, qui lui est habitué des portraits, portraitiste du roi, donc en général des personnes habillées, des personnes de la cour, il y a du faste, il y a des épaisseurs de jupons. Il arrive en Italie, il découvre toutes ces galeries, toutes ces sculptures, toutes ces peintures de nu, et là il se dit, ça peut être l'occasion pour moi, mais là, il va falloir trouver une chose, c'est la quête du modèle.
Oui, et là, Velázquez peut-être il vraiment découvre un monde différent de ce qu'il connaissait jusqu'à ce moment. Ça, on le voit très bien dans les tableaux qu'il peignait, donc les couleurs, les attitudes des personnages. Et on a imaginé qu'est-ce que devait être pour lui arriver à Venise, à Florence, à Rome, parce qu'il a fait un tour en Italie, pas seulement à Rome, et voir donc une vie assez plus vivante, on pourrait dire, par rapport à ce qu'il était habitué. Et là, il a peut-être un contact avec l'art italien, à mon avis aussi avec les peintures de Tiziano. Parce que dans le tableau qu'on voit, en fait, on pourrait imaginer une référence au nu de Tiziano et de Giorgione aussi. Seulement que dans ce cas-là, le modèle est vu de l'autre côté. Et alors là, peut-être il a cette idée de essayer de faire quelque chose qu'il ne pouvait probablement pas faire en Espagne. La culture espagnole était différente. À ce moment-là, la religion en Espagne avait un poids peut-être plus important. Et alors en Italie, non. En Italie, par contre, c'est le contraire. C'est le pape même qui lui propose il demande s'il a besoin de quelque chose, a besoin de modèles, tout ça, pour faire ça. Donc, oui, on a imaginé que c'était l'atmosphère, l'ambiance en Italie qui lui a suggéré ça. Ben, c'est vrai qu'il a étudié beaucoup la peinture italienne, les œuvres d'art en Italie qu'il avait été envoyé pour acheter, d'ailleurs. Le roi Philippe IV le envoie en Italie pour acheter des œuvres d'art. Donc, il a tout le temps ce contact. Et on a essayé de le montrer dans le livre, dans l'histoire, un peu embarrassé, peut-être au début un peu surpris par toutes ces possibilités, cette liberté. Et on sait par les descriptions de Velázquez qu'il était quelqu'un d'un peu réservé, peut-être pas trop ouvert, pas trop, avec un esprit un peu fermé peut-être. Et là, alors, on a imaginé le contraste avec la société italienne de l'époque, qui devait être pour lui un peu trop fort peut-être.
Alors, quelle liberté on se donne vis-à-vis de peut-être les peintures de l'époque, des gravures qu'on peut trouver, des récits, pour justement coller avec ces éléments de décor, parce que cette bande dessinée notamment travaille beaucoup sur les fonds, sur les décors, avec de grands moult détails. Donc tous ces petits détails, où est-ce qu'on va les chercher? Est-ce qu'on va les chercher dans le récit en lien avec le scénariste? Est-ce qu'on va les chercher avec une recherche que l'on fait personnelle et qui prend du temps avant de commencer à faire les premiers croquis, à faire les premiers dessins?
Oui, c'est toutes les choses mises ensemble en fait. Il y a une partie de documentation qui m'est envoyée par le scénariste. Il y a d'autres choses que je connaissais déjà, que je recherchais déjà. Je ne suis pas un historien, je le répète, mais et forcément, il y a vraiment des recherches qu'il faut faire. Je suis même allé à Rome avec toute la famille pendant le Covid. Ça a été sympa parce qu'on a vu Rome totalement déserte. Et puis, j'ai pu visiter des musées et voir vraiment les œuvres d'art qu'on a utilisées dans la BD, mais aussi faire une recherche sur Rome et voir comment Rome pouvait sembler à l'époque. Par exemple, il y a des monuments qui ont changé. Et donc là, il y a une recherche, des amis qui m'ont envoyé des gravures, j'ai trouvé des livres. Et je vous fais un exemple. Par exemple, on voit le Foro de Rome. Je ne sais pas en fait comment on le trouve aujourd'hui, parce que l'arco, par exemple, de Settimio Severo, qu'on voit dans la BD, c'est un arco qu'aujourd'hui on voit dehors du terrain. À l'époque, on le voit dans une gravure de Piranesi. L'arco était à moitié enterré. Et donc ça, ce sont des petits détails intéressants, parce que comme ça, je le montre dans la BD comme il était à l'époque. Et c'est différent d'aujourd'hui. J'espère que les lecteurs qui sont intéressés à ce type de bande dessinée, oui, bien sûr, ils regardent l'histoire, les personnages, la psychologie. Mais aussi, je trouve qu'il y a une partie de l'histoire qui passe pour ce détail et pour cette possibilité que la reconstitution historique nous donne. C'est la même chose pour la couleur. J'ai essayé d'utiliser les pigments que Velázquez utilisait dans ses tableaux. Il n'utilisait jamais de vert, apparemment. J'essayais de lire des livres. Il utilisait des bleus et des ocres, des bleus et des jaunes, pour faire rarement les verts qu'il a utilisés dans deux ou trois tableaux. Et alors j'essayais de me porter, de faire les choses qu'il faisait lui, pour avoir une ambiance qui ressemblait le plus possible. Et puis il faut inventer un peu aussi. Et ça, c'est notre sensibilité, notre culture qui se voit dans ce...
Alors vous parliez du confinement et c'est très bien parce qu'on va retrouver Sara Del Giudice qui nous parle justement de cette difficulté d'aller réunir des éléments pour constituer sa base iconographique en plein confinement.
J'ai développé ce projet pendant la période de confinement qui était très dure en Italie. Donc j'avais pas la possibilité d'accéder par exemple aux bibliothèques ou d'autres types d'archives qui ne soient pas numériques. Donc j'avais accès principalement à justement des photos sur Internet ou sinon à des photos de famille. Donc j'ai utilisé les deux pour essayer de rendre justement l'ambiance le plus reconnaissable possible et le plus effectivement peut-être intéressante aussi par les petits détails, les petits livres, les titres, les choses que j'ai voulu mettre qui me faisaient penser à mes grands-parents ou bien à des choses que moi-même j'avais lues mais que je savais qu'elle aurait pu lire au même âge que moi dans le passé parce que c'était des classiques de la littérature ou des choses comme ça. Et je pense que c'est aussi amusant pour la personne qui dessine d'essayer de placer des petites images secrètes que peut-être quelqu'un va remarquer et d'autres personnes pas, mais en tout cas on s'amuse beaucoup, je pense, avec les petits détails.
Alors effectivement, replacer des petits détails singuliers, familiers et intimes, quand on parle de la moitié du XXe siècle, c'est plus complexe, mais est-ce que ce soit dans celui-là ou dans d'autres albums que vous avez pu réaliser, est-ce que justement vous avez glissé, est-ce que vous avez joué avec le lecteur ou joué aussi avec les gens de votre famille en glissant des petites anecdotes personnelles dans les images?
Oui, oui, ça on le fait tout le temps, il y a plein de choses... qu'on met dans les BD. Dans ce cas-là, par exemple, j'ai mis ici ou là un instrument musical qui est un instrument qui c'est mon fils qui joue, c'est la viole de gambe, donc il y a des violes de gambe de temps en temps, et ça colle bien avec le temps de l'histoire. À l'époque, on jouait la viole de gambe, même dans les maisons, et peut-être aussi les peintres dont on raconte l'histoire, il était des joueurs de viol de gambe. Pourquoi pas? Parce que c'est une chose qu'on a, c'est une, disons, un reflet de ce que on voit aujourd'hui dans le milieu des dessinateurs de bande dessinée, qui souvent ils jouent de la musique, moi aussi d'ailleurs. Et donc j'imagine que le peintre à l'époque il faisait quelque chose qui pouvait aller dans cette direction. Ou sinon j'ai mis dans d'autres albums aussi, je me suis mis moi-même. Très souvent dans le rôle du docteur, du médecin, je sais pas pourquoi, mais
oui, parce que ça, c'est éloigné. Des fois, il y a des revirements professionnels, mais celui-là, il ne fait pas encore partie de votre.
Non, bien sûr. Et oui, il y a plein de petits d'amis, de choses, mais aussi ça m'arrive aussi le contraire, de retrouver dans la vie réelle des personnages que j'ai dessinés, je pensais d'avoir inventé et que je rencontre comme je les ai dessinés.
Alors, on va terminer cette interview avec cette question qui est de se dire, vous avez alterné entre des récits de fiction et des récits historiques. Qu'est-ce qui peut vous transporter pour la prochaine bande dessinée? Est-ce que vous allez replonger dans l'histoire de votre pays?
La prochaine bande dessinée, le prochain livre, j'espère que ça, le premier livre écrit par moi-même. Là, je suis en train de travailler pour la première fois sur un scénario long, un vrai livre. Et ça serait encore l'Italie, ça serait encore l'histoire de la peinture. Mais cette fois, vraiment, j'ai des choses à donner, des choses à dire, des choses que je voudrais vraiment dessiner. Et j'y pense depuis des années. Donc, j'espère que ça sera cette fois. Le changement, ça sera le scénariste et qu'il sera, oui, la possibilité de pouvoir écrire et dessiner un livre. Et donc. Et voir comment ça marche quand on fait les deux choses ensemble.
Petite question subsidiaire, on est à quelques encombures du festival de la bande dessinée d'Angoulême, du festival de la bande dessinée qui aura lieu au mois de janvier prochain. Est-ce que vous êtes déjà venu à Angoulême?
Oui, oui, j'ai eu déjà la chance de participer en tant qu'invité par l'éditeur plusieurs fois. Et des fois, je suis venu en vacances tout seul pendant le festival. Oui.
Pendant qu'il faisait soleil.
Oui. Non, non, mais pendant qu'il y avait le festival, ça permet de voir les expos avec un peu plus de calme, de voir les amis, c'est sympa ça aussi. Donc oui, c'est...
D'accord, donc on se retrouvera au mois de janvier prochain au Festival d'Angoulême. Et aussi, c'est la première fois qu'il y a un pôle bande dessinée ici, au Festival de la littérature européenne de Cognac. C'est aussi, à ma connaissance, la première fois qu'un dessinateur de bande dessinée fait l'affiche. Est-ce que vous pensez que c'est une forme de reconnaissance, mise en avant, je ne sais pas.
Oui, oui, c'est toujours une occasion très importante, à mon avis. On se fait voir, on a la possibilité aussi de faire une affiche, que c'est toujours une chose compliquée, parce que... Et représenter un pays dans ce cas-là, un esprit, un état d'âme, comme ça, c'est pas du tout évident. Donc, et nous, on n'est pas vraiment habitués des fois à travailler sur une image seulement. Donc, en tant que dessinateur de bande dessinée, on a plus d'images pour pouvoir expliquer des choses, montrer des choses. Alors là, c'est un défi un peu. C'est compliqué, facile, mais très très beau. Donc,
c'est oui. Un challenge à chaque fois. Le Grand Prix d'Angoulême est obligé donc d'illustrer l'affiche de l'année d'après. Et c'est plus ou moins réussi cette année. C'est... Vous avez vu les affiches réalisées à la fois par Yad Satouf, Lynn Antico
et... Pas encore.
Non, pas encore. Très bien, on se retrouve au mois de janvier prochain. Donc,
hein. Oui, oui.
Merci Mathéo. Très bonne fin de journée.